Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 19 juillet 2018. Dans son discours, Joseph Kabila s'est engagé à respecter la Constitution tout en restant mystérieux sur ses intentions à 5 mois de la présidentielle en RDC.
Le cap de 3e consultation électorale fixée en décembre prochain reste donc maintenu.
Au Cameroun, arrestation de 4 soldats impliqués dans l'exécution sommaire de 2 jeunes femmes et leurs enfants. Au Sénégal, jusqu'à 20 ans de prison et de nombreux acquittements au grand procès pour terrorisme. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda a remporté le plus grand nombre de mairies à l'issue des municipales. Et suite de la controverse sur le sommet d'Helsinki, Donald Trump s'est dit impatient de rencontrer à nouveau Vladimir Poutine. Sans oublier la minute Écho et le journal des sports, mais tout de suite le journal. Joseph Kabila s'est exprimé à Kinshasa devant le Parlement réuni en congrès, un discours souverainiste qui maintient toujours le doute sur son avenir politique. Il a toutefois répété qu'il respecterait la Constitution. Retour sur ce discours avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans un discours d'environ 50 minutes, Joseph Kabila a quasiment dressé le bilan de ses 17 ans au pouvoir. Dans les domaines économiques, éducationnels, sécuritaires, sociaux comme politiques, le président de la RDC a rappelé chiffres à l'appui d'où il avait pris le pays et où on en est aujourd'hui, saluant à chaque fois des avancées significatives réalisées suite aux réformes qu'il a pilotées. Très attendu au plan politique, Joseph Kabila a réaffirmé la tenue des élections en décembre prochain, des élections qui, selon lui, seront désormais entièrement financées par l'État congolais, étant une affaire de souveraineté, a-t-il souligné. Le Congo n'ayant jamais donné de leçons de démocratie à personne, n'est pas disposé à en recevoir de qui que ce soit, surtout pas de ceux qui ont assassiné la démocratie ici en RDC et en Afrique, a-t-il martelé. Déception par contre pour ceux qui s'attendaient à ce qu'il se prononce clairement sur son avenir politique. Joseph Kabila s'est juste contenté de rappeler son engagement à respecter la Constitution qui ne lui permet pas de briguer un 3e mandat consécutif, et a appelé à la vigilance et au patriotisme de la classe politique afin que, je cite, « les prochaines élections ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité soient un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale ». Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Centrafrique, 1 mort et 4 blessés lors de combats la nuit dernière dans le quartier PK5 de Bangui, selon des habitants et la MINUSCA. Certains témoins affirment que des hommes armés non identifiés ont attaqué la base de la milice de Nimri Matas Djamous. L'attaque avec des tirs nourris a duré environ 1 heure. L'homme décédé était un membre de cette milice, selon ces mêmes sources disant que son corps a été déposé à la mosquée du quartier. 4 soldats camerounais ont été arrêtés après la diffusion d'une vidéo montrant des membres présumés de l'armée exécutant 2 jeunes femmes et leurs 2 enfants en bas âge, accusés d'être des membres de Boko Haram. L'information a été confirmée par des sources proches de l'armée à Yaoundé et à Maroua dans la région de l'extrême nord où les faits se seraient déroulés. 3 militaires issus de l'armée de l'air qui seraient directement impliqués ont été arrêtés alors qu'ils étaient encore déployés à Mabas, dans le département du Mayo-Tsanaga, proche du Nigeria. Leur audition a permis de mettre la main sur un 4e militaire qui n'était pas présent au moment des faits, mais aurait joué un rôle. La ministre française des armées, Florence Parly, est arrivée au Niger pour s'entretenir avec de la force du G5 Sahel, avec son homologue Kala Moutari et le président Mahamadou Issoufou. C'est le 7e déplacement dans la région de Madame Parly, qui doit se rendre au poste de commandement du fuseau centre de la force conjointe à Niamey. Elle doit aussi visiter les militaires français de l'opération Barkhane. Des moyens supplémentaires doivent être alloués à cette force en 2019, notamment des hélicoptères, drones, missiles et blindés, selon le ministère français des armées. Le tribunal correctionnel de Dakar a condamné à 20 ans de prison Maktar Diokané, principal accusé dans le procès de 29 djihadistes présumés. 14 ont été acquittés et l'imam Aliou Ndao a été condamné à une peine très légère. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict de ce procès placé sous haute sécurité est tombé. Makhtar Diokané, décrit comme l'idéologue du groupe, a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Mais l'imam Alioune Dao, accusé d'en être le coordinateur, a été condamné à un mois de prison avec sursis. Le procureur avait requis 30 ans de prison à son encontre. Son avocat Moussa Sarr se félicite de ce verdict. L'avocat de Makhtar Diokané, Alassane Cissé, a lui indiqué qu'il allait faire immédiatement appel. Il était reproché aux 29 prévenus, dont certains avaient séjourné dans des zones contrôlées par Boko Haram, d'avoir voulu installer des bases djihadistes dans le sud et le sud-est du Sénégal et d'avoir envisagé ensuite d'étendre leur projet à des pays voisins tels que la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau.
Le parti islamiste Ennahda a remporté le plus grand nombre de mairies à l'issue des municipales en Tunisie. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, ce succès aux élections est symbolisé par la victoire à Tunis de Souad Abderrahim, devenue au début du mois la première femme maire de la ville. Ennahda est aussi majoritaire dans le gouvernorat de Sfax. Au total, Ennahda remporte donc un peu moins du tiers des mairies disputées. Les listes indépendantes arrivent en deuxième position avec 114 mairies, juste devant Nida Tounes, fondée par l'actuel président Béji Caïd Essebsi, qui a remporté 80 municipalités. Ce scrutin a été marqué par une forte abstention et selon l'ONG Al-Basala, qui évalue le travail législatif depuis la révolution de 2011, 20% des maires tunisiens sont désormais des femmes, à la faveur d'une loi électorale exhortant à la parité dans l'esprit de la constitution de 2014. Ces élections devraient aussi permettre d'ancrer la démocratie au niveau local et pour les partis de renforcer leur ancrage dans les différentes régions, alors que l'année 2019 doit être marquée par la tenue d'élections législatives et présidentielles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump s'est dit impatient de retrouver Vladimir Poutine pour une deuxième rencontre, tout en s'en prenant aux médias qu'il a encore qualifiés de fake news suite à la controverse sur le sommet d'Helsinki. Raïssa Girondin nous en dit plus.
Dans un tweet, le président américain a rappelé que le sommet avec la Russie a été un grand succès, sauf pour le vrai ennemi du peuple et les médias fake news. Il a ajouté attendre avec impatience sa deuxième rencontre avec Poutine pour pouvoir commencer à mettre en place certaines des choses dont ils avaient parlé. Fait remarquable, Poutine avait quelques heures plus tôt lui aussi dénoncé les critiques visant Trump, stigmatisant les forces aux États-Unis prêtes à sacrifier les relations russo-américaines à leurs ambitions. Plaidant pour un renforcement des contacts entre les deux grandes puissances nucléaires, le maître du Kremlin a notamment rappelé que le traité de réduction du nombre d'armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis, le New START, devait expirer en 2021. Selon un sondage CBS News publié ce jeudi, seul un tiers des Américains approuvent la façon dont Donald Trump a géré le rendez-vous d'Helsinki. Cependant, dans le camp républicain, le taux d'approbation monte à 68%.
Il y a quelques minutes, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a affirmé que le président américain Donald Trump ne permettra pas que des responsables américains soient interrogés par la justice russe. Lors de sa conférence de presse avec M. Trump, lundi à Helsinki, M. Poutine avait proposé de permettre à Washington d'interroger 12 agents du renseignement russe inculpés aux États-Unis, mais à la condition d'une réciprocité. Les États-Unis ont échoué à obtenir de l'ONU ce jeudi l'arrêt de toute nouvelle exportation de pétrole cette année vers la Corée du Nord, malgré un rapport américain affirmant que ce pays a dépassé pour 2018 ses quotas d'importation fixés par des sanctions. La Russie et la Chine ont demandé aux États-Unis des informations complémentaires sur leur requête formulée la semaine dernière, bloquant de facto le processus engagé par Washington pour interdire l'envoi de produits pétroliers raffinés à Pyongyang. L'auteur de l'attentat suicide au Pakistan ayant fait 149 morts le 13 juillet est un djihadiste qui a passé au moins 2 ans en Afghanistan où il a combattu la coalition internationale selon les autorités de Quetta qui l'ont identifié. Il s'agit d'un Pakistanais nommé Hafiz Nawaz, a annoncé le service de contre-espionnage, précisant être à la recherche de ses complices. L'attentat qui a eu lieu dans la province du Baloutchistan a été revendiqué par le groupe État islamique. Il est le dernier en date d'une série d'attaques ayant visé des réunions électorales organisées pour les législatives du 25 juillet. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, a revu à la hausse ses prévisions de croissance dans l'espace CEMAC qui regroupe 6 États. Il s'agit du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad et de la Guinée équatoriale. Pour l'année 2018, le taux de croissance est projeté désormais à 2,5% contre 1,9% initialement. La hausse de la production pétrolière et la reprise de l'activité économique mondiale vont favoriser ces résultats. Le négociant français en bois Rougier a annoncé la vente des filiales de sa branche Afrique au Cameroun et en Centrafrique. Le tribunal de commerce de Poitiers a autorisé un redressement judiciaire. Cette opération permet au groupe de rationaliser son portefeuille d'activités et estime pouvoir poursuivre son recentrage géographique dans de meilleures conditions. Le chiffre d'affaires 2017 affichait une baisse de 7,5% sur plus de 149 millions d'euros de 2016. Airbus et Boeing ont engrangé une pluie de commandes au salon aéronautique au Royaume-Uni. Ces commandes représentent un total cumulé de plus de 150 milliards de dollars et avec un avantage pour le géant américain, le groupe européen a annoncé avoir signé des engagements pour 70 milliards de dollars au prix catalogue. Le groupe américain a annoncé les commandes au prix catalogue d'environ 92 milliards de dollars.
Présent les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bakambou s'illustre d'entrée avec son nouveau club.
Après 2 mois d'interruption, le championnat chinois a repris hier et l'international congolais a montré qu'il n'a rien perdu de ses qualités pendant les vacances. Cédric Bakambou a ouvert le score contre Henan et contribué à la victoire 2-1 de Beijing Guoan, actuellement leader.
En Europe, Liverpool est tout près d'engager Alisson.
Et oui, l'international brésilien Alisson devrait signer un contrat de 5 ans avec les Reds d'un montant de 75 millions d'euros. D'après le journal Liverpool Echo, une annonce officielle devrait être faite dans les 24 ou 48 heures, ajoutant que le gardien de but a interrompu ses vacances pour se rendre à Liverpool afin de passer la visite médicale. En cas de transfert, Alisson battra le record pour un gardien détenu par son compatriote Ederson, passé du Benfica à Manchester City pour 40 millions d'euros l'été dernier.
Benjamin Pavard, lui, est tout proche du Bayern.
Oui, le défenseur français de Stuttgart a signé durant le Mondial un contrat pour rejoindre le Bayern Munich en 2019. Mais désormais, les Bavarois négocient pour que le Français rejoigne le Bayern Munich dès cet été. Benjamin Pavard dispose dans son contrat actuel d'une clause de sortie dès 2019 pour 35 millions d'euros.
Et pas de révolution pour Luis Enrique.
Le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Espagne a promis qu'il ne va pas opérer une révolution dans le style de jeu de la Roja après 3 déceptions consécutives lors des compétitions internationales. Écoutons Luis Enrique.
Je pense que nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais ça ne sera pas une révolution. C'est un mot que je n'aime pas, mais il y aura une évolution. Il y aura certes des changements, mais ça ne sera pas simplement parce qu'un joueur a 30 ans qui ne viendra pas avec nous. Je ne me préoccupe pas de l'âge, je me soucie uniquement de la performance.
Luis Enrique, l'Espagne éliminée au Mondial russe en 8e de finale par la Russie, n'a plus passé ce stade d'une compétition internationale depuis 2012 et sa victoire à l'Euro.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a présenté ce jeudi son discours sur l'état de la nation devant les membres du Parlement réunis en congrès. Dans son intervention, il a abordé plusieurs aspects importants de la vie socio-économique et politique du pays. Pour une réaction, John Linden a joint Henri-Désiré Nzouzi, consultant et analyste politique.
Une allocution classique qu'il a répétée à quelques mots près, les discours sur l'état de l'Union qu'il avait l'habitude de prononcer. C'est un discours sans surprise qui s'inscrit tout simplement dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à présent.
La RDC présentée par le président Joseph Kabila se porte plutôt bien, notamment sur le plan économique. Est-ce que cela se reflète dans le quotidien des populations?
Disons que c'est une vision quelque peu idyllique, voire excessive de la situation. On sait que depuis de très nombreuses années qu'il y a une répartition inéquitable des fruits de la croissance, puisqu'on nous a annoncé des taux de croissance flatteur, mais il faut bien remarquer que la paupérisation des populations n'a pas cessé depuis lors. Je pense que là, le trait a été quelque peu forcé, et donc à ce niveau-là, je préférerais tempérer les propos du président de la République.
Beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le président Kabila se prononce clairement sur la prochaine élection présidentielle du 23 décembre, et notamment sur son éventuelle candidature. Est-ce que cette attente a été satisfaite ou pas?
Non, cette attente n'a pas été satisfaite. Je dirais très simplement que le président a raté le coche. En tout cas, il a raté une opportunité d'entrer dans l'histoire. Il s'est plutôt renfermé dans son discours. C'est d'autant plus triste qu'il aurait pu au moins annoncer des mesures de décrispation politique, ce qu'il n'a pas fait. Je crains que ce discours n'ait des conséquences potentiellement incalculables.
Il ne sera pas candidat ou il le sera à votre avis?
La difficulté de Joseph Kabila aujourd'hui pour se déterminer, en fait, tient du fait qu'il n'a pas envie de pouvoir désigner un dauphin, de craindre que cela n'alimente une guerre de succession au sein de sa propre famille politique et que cela donc affaiblisse sa position. Il joue donc sur le temps. Il n'est pas exclu que dans les prochains jours, il y ait néanmoins des décisions qui soient prises, mais qui impacteront nécessairement sur le calendrier électoral. À titre personnel, je m'attends néanmoins, malgré les garanties qu'il a données, je m'attends néanmoins à un glissement du calendrier électoral.
Mais si la Constitution dit qu'il ne doit pas se représenter, pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument qu'il le dise, lui?
Alors, c'est très simple. Vous savez que du 25 juillet au 8 août, en principe, c'est le dépôt officiel des candidatures pour la présidentielle. En tant que président en exercice, il peut ne pas se sentir lié par cette disposition, car elle oblige sa famille politique à désigner un successeur. Or, il n'a pas, lui, intérêt à le faire politiquement, car ce serait suicidaire. Il va donc jouer sur le temps et multiplier, selon moi, les artifices pour que le glissement, que certains craignent, se déroule néanmoins au-delà du 23 décembre.
Le politologue congolais Henri-Désiré Nzouzi était joint à Bruxelles.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur le tête-à-tête inédit lundi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. S'agit-il d'un nouveau chapitre des relations entre Washington et Moscou? Les deux dirigeants ont-ils intérêt à s'entendre? Que peut signifier pour le monde, y compris pour l'Afrique, une normalisation des rapports russo-américains? Mais les points de friction comme l'Ukraine, la Syrie et les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine sont-ils des obstacles à cet éventuel rapprochement? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h10.
En Centrafrique, la suspension des activités de Médecins sans frontières à Bria n'est pas sans conséquence. Des cas de décès d'enfants dus au paludisme sont déjà enregistrés. Sur le site de PK3, où sont massés plus de 40 000 déplacés, l'eau potable devient une denrée rare. Le correspondant de VOA Afrique à Bangui, Freeman Sipila, s'est rendu sur place.
La ville de Blia, contrôlée depuis plusieurs mois par des groupes armés, échappe au contrôle de l'État. Les attaques ciblées contre des humanitaires et des opérateurs économiques y sont devenues monnaie courante. Début juillet, la base locale de MSF a été pillée et le personnel brutalisé. Cette énième agression a poussé l'organisation humanitaire à suspendre ses activités dans la ville. Deux semaines seulement après ce retrait, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Des cas de décès des enfants sont signalés sur le grand site des déplacés de PK3 et dans les quartiers. À l'hôpital, le médecin-chef s'inquiète, Dr Jean-Mathias Amadou.
Sur la semaine allant du 9 au 15, nous avons consulté près de 72 enfants. Mais contrairement aux statistiques qu'on avait avant, avec la présence de Médecins Sans Frontières, c'était plus que ça. D'où on s'inquiète. On s'inquiète du fait qu'il n'y a plus de référence de la périphérie à l'hôpital et surtout de PK3 à l'hôpital. Ce qui veut dire que les enfants qui ont des problèmes de santé dans ces coins, en périphérie de la ville et dans les sites de déplacés, ces enfants sont soit traités par les charlatans, sont soit pris en charge par des personnes non qualifiées.
Sur le site des déplacés du PK3, avoir de l'eau potable n'est plus une mince affaire. Pour en avoir, il faut des heures de bousculade. Cette femme s'en plaint.
Ici, sur le site de PK3, nous souffrons sérieusement. Nous demandons à la MINUSCA de nous prêter main forte concernant nos besoins sanitaires et en eau potable. Nous sommes très attristés avec le départ de MSF. Nous sommes vraiment en détresse. Pour avoir de l'eau, il faut faire la queue le matin jusqu'à 14h, voire 17h, 18h. C'est très pénible.
Depuis la suspension des activités de MSF, seule l'ONG Oxfam fournit de l'eau aux déplacés. Elle doit désormais faire face à un afflux de personnes dans le besoin, des personnes venues des 16 blocs du site. En mission en République centrafricaine, Juan Liu, présidente internationale de MSF, annonce des dispositions en cours pour la reprise des activités de l'organisation humanitaire à Blia.
C'est avec déchirement qu'on a retiré nos équipes et présentement nous sommes en réflexion pour voir quelles seraient les conditions pour un retour. Donc voilà, c'est au cœur de nos préoccupations. C'est des choses qu'on ne fait jamais à la légère et on en a discuté avec le ministre de la Santé et nous essayons de trouver l'adéquation pour un retour.
En 2017, MSF a réalisé près de 50 000 consultations et pris en charge plus de 350 blessés dans la ville de Blia. Freeman Sipila Bongui, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le général mauritanien Anena Ould Sidi est désormais le nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Il remplace le général malien Didier Dacko. Cette nomination avait été décidée par les 5 chefs d'État de la zone et le président français Emmanuel Macron au lendemain de l'attaque terroriste contre le QG à Sévaré au Mali fin juin. Pour une analyse sur le choix du général mauritanien, Bagassi Koura a joint à Nouakchott Mohamed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar.
C'est le cœur du G5 Sahel qui a été attaqué, donc il fallait qu'il y ait un changement. Et que dans ce changement, il y a la France et la Mauritanie qui ont vraiment profité de la situation. Parce que la Mauritanie était réputée, ou de toute façon, ce qu'on disait dans les coulisses, que c'est un pays qui était réticente, qui doutait un peu. Donc, la France avait besoin de lui confier ce commandement pour l'engager davantage. Mais également, il y a la Mauritanie qui voulait montrer aux yeux du monde qu'elle est capable non seulement de diriger le G5 Sahel, mais également d'être leader dans cette lutte contre le terrorisme. C'est un général déjà qui avait dirigé les renseignements extérieurs, militaires bien sûr. Donc ça veut dire que, quelque part, c'est l'homme qu'il fallait, de toute façon, pour la Mauritanie, pour occuper cette place après le départ du Malien Didier Dacko. Donc je pense que c'est un général qui a vraiment de l'expérience.
Parmi les 5 pays du G5, la Mauritanie est l'un des pays qui a su combattre le terrorisme. Est-ce que ça aussi, c'est une expérience qu'il apporte dans cette mission-là?
Oui, parce que on sait que la Mauritanie est dans cette zone du Sahel, de façon qui est en proie au terrorisme. Et qu'il n'y a presque pas un pays qui n'a pas frappé ces dernières années. Et la Mauritanie, de toute façon, a resté une exception. L'exception, c'est que depuis 2011, il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Mauritanie. Et beaucoup parlent de l'expérience mauritanienne dans la lutte contre le terrorisme. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est une chance pour la Mauritanie de prouver que non seulement elle sait gérer ses frontières, mais au-delà également de ses frontières, elle arrive à vraiment diriger cette guerre contre le terrorisme.
Comment est-ce que la Mauritanie est parvenue à contrôler les groupes djihadistes sur son territoire?
Il y a le renforcement déjà de son armée, les effectifs, la formation, il y a donc cette mise à niveau. Il faut le rappeler que le président Mohamed Abdelaziz a été dans l'armée. Donc forcément, il a travaillé dans ce sens-là. Et ce qu'on peut retenir dans ça, c'est-à-dire le niveau de l'armée mauritanienne qui a été renforcé et les formations et tout. Mais également un peu, si on peut dire qu'au nord du Mali, c'est une continuité un tout petit peu des populations en termes de langue et de culture vers l'est de la Mauritanie. Donc c'était plus simple pour l'armée mauritanienne de collecter des renseignements parce qu'en comprenant la pensée, la culture des populations sur place.
Mohamed Diop est le rédacteur en chef du journal Al Akhbar en Mauritanie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Après la saturation des marchés européens, les trafiquants de drogue dure ciblent l'Afrique, entraînant une augmentation du nombre de consommateurs sur le continent. D'où l'ouverture au Sénégal il y a 3 ans du tout premier centre ouest-africain de réhabilitation des toxicomanes. De Dakar, le récit de Sophia Christensen, rendu par Lionel Game.
Omar a goûté à l'héroïne pour la première fois dans les années 1980, alors qu'il était étudiant à Paris. De retour au Sénégal, ce quinquagénaire note que l'héroïne et la cocaïne ont fait une incursion dans son pays.
J'ai connu l'héroïne en France. Le gars avec qui tu parlais également, il a connu l'héroïne en France. Mais moi, si on peut agir d'un certain âge, c'est pas le cas d'un jeune qui a 25 ans ou 27 ans qui a connu l'héroïne ici. Vous comprenez? Moi, mon cas, moi j'ai connu l'héroïne en Occident. Mais les jeunes ne connaissent pas l'héroïne en Occident, mais ici, ils le trouvent ici, ils le voient ici.
De l'avis des experts, la consommation des drogues dures en Afrique tend à supplanter celle du cannabis, jusqu'ici la substance la plus répandue. 1,8 million de personnes consommaient de la cocaïne en 2016 en Afrique centrale et de l'Ouest, estime l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Selon Pierre Lapague, représentant régional de cette agence, le Sénégal est un pays de transit de la drogue provenant de l'Amérique latine et destiné à l'Europe. Les barons de la drogue tentent de créer de nouveaux marchés en Afrique, explique l'expert onusien.
Un consommateur de drogue, quelle que soit cette drogue, est généralement un homme de moins de 25 ans, généralement d'une couche, une couche sociale moyenne ou moyenne inférieure. Or, si vous voulez, en Afrique, il y a 1 milliard d'habitants, il y aura 2 milliards dans quelques décennies. 50% de cette population est par nature des hommes. Et la classe émergente, c'est justement cette classe-là. La classe sociale émergente, c'est celle-là.
Au Sépia de Dakar, des infirmières pèsent des patients et font des prélèvements de sang. Lancé en 2015 et subventionné par l'État sénégalais, c'est le tout premier centre ouest-africain de traitement de la toxicomanie. Est le seul habilité à administrer de la méthadone. Le CEPIAD a déjà accueilli plus de 2000 patients, souligne son directeur Idriss Abba.
Et le profil s'est beaucoup diversifié aussi. De plus en plus, nous recevons des jeunes. Nous recevons aussi, en quantité, peut-être en nombre faible, relativement faible, des femmes aussi, qui ont des problèmes avec ces substances psychoactives.
Cette année, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé un cours en vue d'aider les travailleurs de la santé à identifier les différentes formes de toxicomanie et y répondre. Le docteur Adama Koundoul, directeur d'un hôpital psychiatrique de Ziguinchor, dans le sud du pays, suit ce cours.
La particularité de Ziguinchor, c'est en fait une région carrefour. C'est une région qui est enclavée entre deux grands pays, deux autres pays, la Gambie, la Guinée-Bissau, aussi bien aussi donc la Guinée-Conakry. Et en plus de ça aussi, c'est une région qui est fréquentée par le tourisme. Donc c'est une région quand même qui reçoit beaucoup de touristes. Et c'est une région où les campements touristiques sont très développés et ne sont pas tout le temps encadrés. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui quand même on se rend compte que vraiment donc la drogue est présente donc dans cette région.
En 2007, les autorités sénégalaises ont saisi 1,2 tonnes de cocaïne près de la ville côtière de Naneng. Des petites quantités continuent d'être interceptées et détruites, mais de l'avis des experts, il reste encore beaucoup à faire contre les substances nocives, surtout avec l'afflux des drogues de synthèse.
Un très grand merci à tous. Bonne soirée.